Votre radio vous propose chaque après-midi 2 heures de découverte. De 13h à 15h, partez à la découverte des recettes et des femmes du Congo. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants et femmes d'aujourd'hui. Laissez-vous guider par les balades en zigzag. Un zeste de culture et beaucoup de musique. 13h-15h, découverte, le cocktail de l'après-midi sur Radio Okapi.
Les conflits armés récurrents à l'est du pays ont causé des traumatismes dans la vie de certaines personnes. Les crépitements des balles, déplacements des populations, tueries, viols des femmes et autres atrocités finissent par causer une grande détresse émotionnelle. Ce traumatisme laisse une empreinte profonde, une plaie profonde et influence le comportement de la personne ou de certaines personnes pour les restes de leur vie. Alors comment s'en libérer, comment faire face à cela? Docteur Abraham Mifundu, neuropsychiatre, est notre invité. Docteur, encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Docteur, la première question est de savoir, c'est quoi un traumatisme? Qu'est-ce qu'on entend par traumatisme?
Ce qui nous concerne aujourd'hui, notamment la guerre, il faudrait d'abord comprendre ce que c'est la guerre. C'est que la guerre, c'est une situation qui n'est pas, qui n'arrive pas brusquement, qui n'arrive pas de façon anodine, mais c'est une situation qui est préparée par ceux qui font la guerre. Donc ils se préparent, les outils à utiliser qui sont les plus performants, ils affinent les stratégies qui leur permettra d'atteindre leurs objectifs. Et leurs objectifs, c'est en fait anéantir l'ennemi. Mais dans leur champ de bataille, il n'y a pas que leur ennemi, mais il y a toute cette population, il y a ceux qui vont faire la guerre, il y a tout l'environnement qui est là. Et ces personnes qui vivent cette situation qui est la guerre, et pour la population qui vit la guerre, en fait, c'est une situation inattendue pour elle, à laquelle elle n'est pas préparée, qui arrive soudainement, avec le plus souvent avec des actes très atroces. Ils vivent, ils entendent le bruit, par exemple, de balles, de coups de canon. Le mort qu'ils voient devant eux pendant la guerre, ces maisons qu'ils voient, leurs maisons qui contiennent tous leurs biens, qui sont consumées par le feu des agresseurs, eh bien, en fait, ils vivent une situation inattendue, imprévisible, ils sont confrontés à une mort réelle. Mmh. Et c'est cela la base de tous leurs problèmes qu'on appelle le traumatisme.
Donc, en d'autres termes, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est une vive émotion causée par un événement?
Oui, en fait, c'est une situation inattendue par celui qui vit le traumatisme, imprévisible, qui le met, en fait, face à une mort réelle, et il en sort, en fait, un vivant, mais qui est mort, effectivement.
Un vivant qui est mort. Alors, quels sont les effets? Parlons des effets du traumatisme. La personne qui a vu des cadavres, qui a vu sa maison être brûlée, ses frères et sœurs, les femmes en train d'être violées, tout ça, ou elle-même, elle a subi les viols. Comment va se manifester ce traumatisme à la longue?
En fait, le vécu de cette situation qui est la même pour tout le monde, mais elle est vécue différemment. Et la souffrance même qui en découle est différente d'une personne à l'autre, selon son passé, selon les circonstances qui ont accompagné la situation. Eh bien, certaines personnes, vous le verrez dans la vie, que devant la situation qui rappelle l'événement, eh bien, ils ne savent pas vivre, ils sont atteints d'une panique, ils ne sont pas à l'aise, ils évitent les situations qui rappellent l'événement qu'ils ont vécu, la guerre. C'est comme s'ils sont à Kinshasa, quand il était, s'il a vécu la situation de guerre à Goma, et qu'il est aujourd'hui à Kinshasa, et qu'il entende qu'un bruit de fusil, un coup de fusil derrière la maison, eh bien, il réside comme si, il se retrouve comme si jamais la situation qu'il avait vécue à Goma est présente. Eh bien, il commence à éviter toutes les situations qui lui rappellent ce qu'il avait vécu pendant la guerre. Et dans sa vie, vous le verrez, il ne dort pas suffisamment, il ne dort plus suffisamment bien. Et il est tout le temps atteint de la panique. Et pour certaines personnes, vous le verrez qu'elles peuvent adopter des comportements à risque, qu'on appelle des comportements à risque. Par exemple, une grande consommation de boissons alcoolisées qui peuvent aboutir à une véritable dépendance. Et d'autres personnes peuvent présenter même de véritables troubles psychiatriques. Elles deviennent agitées. Hein, et d'autres peuvent se replier sur elles-mêmes, elles deviennent très très inhibées et n'ont plus la possibilité de contact avec les autres. Et même dans leurs activités habituelles de vie, vous le verrez qu'elles sont plus performantes. Donc il y a les signes face à la même situation vécue par plusieurs personnes dépend d'une personne à une autre.
Voilà, cela dépend d'une personne à une autre, mais certains disent que le traumatisme, en fait, c'est une plaie, une blessure profonde au niveau de l'âme de la personne touchée.
Effectivement, vrai, parce qu'en fait, la personne menait une vie assez normale, et soudainement, il se retrouve devant une situation qui, en fait, met en péril sa vie. Et ça reste en lui. Et d'ailleurs, si on n'intervient pas de manière efficace, certaines personnes peuvent même rester avec ces séquelles toute la vie. Et cette situation peut même se répercuter dans sa descendance. Vous comprendrez, par exemple, un enfant qui a vécu les viols de sa mère. Et dans la vie, la maman qui est répudiée par le parent et toute la communauté qui connaît ça. En fait, il est tellement plein de honte. Il vit avec la honte d'être le fils de cette maman qui a été violée, que tout le monde connaît, qu'elle a été victime de viol. Et on dit effectivement que les traumatismes vécus par un parent, une certaine génération, peut même avoir des répercussions à des générations postérieures.
Voilà, ça peut avoir des répercussions dans les générations futures. On a même appris certaines histoires où les bandits, disons les hommes armés arrivent dans une maison, ils obligent maman de s'accoupler avec son fils devant papa, des choses comme ça. Et si vous refusez, on vous tue. Alors un tel enfant qui reste toute sa vie avec ces images, comment l'aider à s'en sortir?
En fait, l'aide doit être en même temps individuelle et collective. Une personne qui est victime devra normalement le rôle de ceux qui sont appelés à intervenir, c'est d'identifier, parce que tout le monde peut avoir vécu la situation traumatisante, mais tout le monde n'a pas le même degré de souffrance. Tout le monde n'est pas appelé à souffrir de cette situation. Donc, il faudrait identifier les personnes qui présentent de problèmes. Et ces personnes qui présentent des problèmes doivent normalement, on doit les aider à parler, à s'exprimer, à parler de leur situation. Et on doit les aider à apprendre à rire, à vivre une vie confortable. On doit les amener à apprendre, par exemple, à danser. En fait, ils doivent verbaliser la souffrance qu'ils vivent en eux. Ils doivent vivre à eux. Et les amener à ce qu'ils comprennent, à ce qu'ils intériorisent, que la situation vécue n'est pas, en fait, une fin en soi. Et qu'ils ont la possibilité de revivre s'ils peuvent partager leur situation, qu'ils peuvent parler de leur situation. Et on peut organiser de séances de groupe qui réuniraient des personnes qui ont vécu la même situation et qui se partageraient leur souffrance. Et aussi, on ne devra pas oublier la communauté dans laquelle vit cette personne qui ont vécu des situations assez difficiles. Parce que, prenons le cas de ceux qui ont été victimes de viols. Au-delà du viol qu'ils ont subi, eh bien, dans la vie de tous les jours, ils subissent cette stigmatisation. Ils sont rejetés, ils ne sont pas acceptés, ils sont mis à part. Et parce qu'ils ont eu, par exemple, un enfant du viol. Hein, même ces enfants du viol sont mal pris, sont mal vus par l'entourage. Donc, il faudrait aussi travailler avec l'entourage pour que, finalement, la relation puisse bien s'établir, parce que la personne ne vit pas seule, la personne vit en communauté.
Bien, nous avons un premier auditeur en ligne, Omar Kigalo de Kinshasa. Nous parlons aujourd'hui de comment se libérer d'un traumatisme lié au conflit armé avec Dr Abraham Ifundu, neuropsychiatre.
Radio Okapi encourage les jeunes talents congolais. Auteurs, compositeurs, interprètes, une adresse mail est à votre disposition. musique@radiokapi.net. Envoyez vos chansons. Après sélection, elles feront peut-être partie de la playlist ou d'une émission de Radio Okapi. Faites-vous connaître, des millions d'auditeurs vont écouter votre musique. musique@radiokapi.net. Allez-y, on vous attend.
Voilà comment se libérer d'un traumatisme lié aux conflits armés. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci beaucoup Jody de la parole. Ma première question est celle-ci. Si le docteur peut nous définir d'abord ce qu'on entend par traumatisme, parce qu'au Congo, on a des problèmes avec le mot, tout le monde dit traumatisme, d'autres gens ont à l'estomac dit traumatisme. Qu'est-ce qu'on peut définir comme traumatisme et quels en sont les symptômes? C'est-à-dire, on voit des signes à partir desquels on peut dire telle personne a des traumatismes. Deuxième question, puisqu'on parle des traumatismes liés aux conflits armés et que ça peut affecter la vie de quelqu'un, quels en sont les vrais remèdes et au niveau médical et au niveau social avec les gens qui vivent avec de telles personnes? Et troisième question, et il est démontré en psychologie, il y a quatre sortes de caractères de l'homme. Il y a des phlegmatiques, il y a des sanguins, il y a des mélancoliques, il y a aussi des colériques. Est-ce que toutes ces personnes ont la chance d'attraper des traumatismes ou il y a certains qui peuvent l'attraper et d'autres non? Parce que le caractère de l'homme, des fois, est compliqué. Et dernière question, à part les conflits armés qui sont les principales causes des traumatismes, est-ce qu'il y a d'autres événements comme un enfant qui voit ses parents chaque jour se battre, comme un enfant qui a vu ses parents mourir dans une ville? Est-ce que ces mêmes traumatismes peuvent être comparables aux traumatismes liés aux conflits armés? Voilà mes préoccupations, je dis, mais j'en veux toujours par rapport aux remèdes parce que il y a beaucoup de gens même dans la ville qui ont des traumatismes et n'ont pas de solutions. Merci pour la parole.
Bien. Christelle Ntumba, vous êtes aussi à Kinshasa. Bonjour et quelle est votre question?
Bonjour Radio Okapi. Moi, j'ai un frère vécu. Et puis, à un certain moment, en 2005, j'étais à Lubumbashi. J'ai failli être victime d'une viol. Les hommes amenés à l'armée s'étaient introduits à la maison et comme dans toute guerre, ils ont ça me fait du mal. Alors je me suis c'était la face de l'un
d'eux. Oui, on vous entend plus bien. Est-ce que vous pouvez vous déplacer un tout petit peu? On vous entend plus bien, Christelle.
Bonjour.
Oui, allez-y.
Ok, alors j'ai eu à dire ça, mais c'était pas, je m'étais échappé. Avec le temps, je n'ai pas parlé, comme il n'y avait pas les parents, je n'ai pas parlé aux parents ni à un membre proche. Des choses qui ça n'arrête pas à moi et ça continue comme ça, mes frustrés. Et là, à Kinshasa, j'ai revu le même monsieur il y a longtemps, toujours dans l'armée. Et quand je le revois, j'ai toujours ces sentiments. Je ne sais pas comment faire enlever ce sentiment en moi. Ça me revient toujours. Je ne sais pas quoi faire.
Vous dites que ces messieurs, vous avez reconnu parmi les assaillants un monsieur qui vous est familier?
Oui, C'était un monsieur qui m'était familier parce que il était dans un hôpital hein, là où j'étais internée et c'est comme ça qu'il c'était la guerre de 2005, le 30 juin 2005, il y avait eu des débillages et tout. C'était à ce moment-là. Et il m'a reconnu jusqu'à aujourd'hui. Je suis avec la femme et chaque fois que je passe là, ça me fait mal. Je n'arrive pas à gérer ces sentiments-là jusqu'à aujourd'hui.
Et ces monsieur, ils étaient en nombre de combien, ceux qui étaient entrés dans la maison?
Ils étaient à sept et c'est lui qui était le chef de bande. C'est lui qui était à la tête, apparemment.
Et tous les sept, vous avez violé ou pas?
Non. Ils n'ont pas violé. J'avais fait un effort. Bon, ils avaient. Ces jours-là, ils ont pris ma petite sœur. Ils avaient violé ma petite sœur.
Et vous avez pu vous échapper? Oui.
Pardon?
Vous avez pu vous échapper, voilà.
Oui, moi, je suis échappée. Et là, je le vois ici. L'histoire est déjà passée, mais. Je n'arrive pas à gérer ça jusqu'à aujourd'hui.
Oui, et quand vous voyez le monsieur, qu'est-ce que vous ressentez en vous?
Vraiment, donc je me rappelle, donc c'est difficile de croire qu'il y a des années déjà passées. Je me retrouve la même date, le même temps. Je n'arrive pas à gérer tout cela vraiment. C'est oui. Toujours le même sentiment. La peur, je n'arrive pas à l'affronter. Je peux l'accuser, je peux faire ceci, mais je n'arrive pas.
D'accord. Merci. Arsène Odo, vous êtes à Goma. Bonjour.
Merci, bonjour.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au traumatisme lié aux conflits armés?
Bon, je remercie l'invité de m'associer encore dans les débats. Bon, parce que je suis tout juste dans la ville de Goma. Bon, il y a les centres qu'on appelle les... Donc, centre mental, donc santé mentale. Et au fait, en réalité, ce qu'il hésitait en train de décrire, je suis d'avis à 100% avec lui. Mais concernant les sujets vraiment, les mal est profond. Parce que, bon, au fait, nous entrons dans les terrains, parce que je travaille pour le TIA Fund International. Il y a autant de réalités que nous voyons. Et ce que moi, je me pose comme question, c'est de savoir. Bon, nous pouvons lutter contre ces phénomènes, mais ce qui m'intéresse d'abord sont des causes. Vous savez, aujourd'hui, la jeunesse est presque délaissée. Et ici, dans la ville de Nord, dans la ville de Goma, bon, c'est la région là où il y a autant de conflits armés, mais ça fait des traumatismes aux jeunes parce qu'il y a des violences et il y a des tueries. Bon, je me souviens, à un certain moment, il y a un ami qu'on a tué son papa, et il a vu comment on a tué son papa et on a tué sa maman. Bon, mais ce qui m'intéresse, bon, en tout cas, je ne pouvais pas sentir les procès. Parce qu'on peut faire les procès, et la personne sera condamnée, mais le procès sera toujours dans le cœur. Mais ce que je pose maintenant à l'invité, c'est question de savoir, bon, comment on peut éviter pour que la personne qui est traumatisée, ça puisse nécessairement prendre fin pour sa vie. Parce que quelqu'un est traumatisé et il continue à sentir soit des misères, il continue à être mal payé. Bon, peut-être c'est un enseignant, peut-être il y a aussi des militaires. Ils étaient au fond. On doit dire la vérité d'abord. Il y a des militaires qui sont aussi traumatisés. Ils ne font pas seulement avoir des civils. Et ils ne sont pas bien payés. Donc, ce que moi, je me pose comme question, comment remédier cette situation dans son cœur convenablement? Parce que le sujet est très vaste. Et le sujet est très vaste. Est-ce que on doit acheter les véhicules pour lui? On doit les payer? On doit les mettre dans quelles conditions? Les procès, il peut voir celui qui a tué son papa, celui qui a violé sa maman, et la personne sera condamnée même sans tamer pour toute sa vie. Mais la personne restera toujours avec les mal au cœur, ça va faire des fissures au cœur. Donc pour que cette personne se sente à l'aise, qu'est-ce qu'il faut pour toute sa vie? C'est ça d'abord ma préoccupation.
Merci. Merci Arsène. Docteur Mifundo Abraham, vous avez suivi les différentes préoccupations. Commençons par celle d'Omar Kigalo qui vous demande de définir c'est quoi les traumatismes parce qu'il voudrait bien comprendre.
En fait, les traumatismes, c'est un événement extérieur à la personne et qui apparaît de manière soudaine, inattendue par la personne, inexpliquée, et la personne se sent impuissante de faire face à cet événement. Eh bien, c'est un événement qui les met en fait face à la mort, qui menace son intégrité. C'est cela les traumatismes.
Voilà. Et il dit en psychologie...
Il est différent, oui, tu disais.
Oui, il dit en psychologie, nous avons des personnes qui ont différents caractères.
Je peux peut-être continuer.
D'accord.
Si tu me permets.
D'accord.
En fait, c'est différent d'un étudiant qui n'a pas bien préparé son examen et finalement qui est mal à l'aise devant cet examen. Celui-là, c'est un stress. Et s'il commence à souffrir, s'il commence à présenter l'envie d'uriner, il ne se sent pas à l'aise. Ça c'est pas les traumatismes. Ça c'est le stress. C'est un mécanisme d'adaptation à une situation. Mais les traumatismes, lui, il est un peu plus profond. Et d'ailleurs, ces manifestations, on le verra, surtout quand il s'agit de l'état de stress post-traumatique. Eh bien, la personne aura à revivre l'événement dans sa pensée de manière persistante. Et devant des situations qui rappellent cet événement, il commencera à les éviter. Et on verra qu'il ne dort plus. En fait, il a des comportements d'éveil en lui. C'est différent, le stress est différent du traumatisme. Eh bien, le traumatisme, lui, met la personne face à la mort.
Voilà. Le traumatisme met la personne. Oui.
Oui.
Ça met la personne face à la mort. Omar Kigalo dit, il y a plusieurs caractères. D'après lui, en psychologie, nous avons différents caractères. Nous avons les phlegmatiques, les sanguins et autres. Alors.
J'ai dit dans mon intervention avant que notre manière de réagir face à un même événement, plusieurs personnes peuvent vivre le même événement, mais la réaction, les conséquences face à cet événement diffère d'une personne à une autre en fonction de son caractère, de son passé. Vous comprendrez que quelqu'un qui a déjà vécu la guerre et qui est confronté à une deuxième situation traumatisante, c'est encore plus grave chez lui. Hein? Quelqu'un qui, une personne qui est croyante, qui a été violée, peut vivre ce viol comme étant une punition divine par rapport à ce qu'elle a déjà fait avant. Donc, il y a la réaction, les conséquences face à une même situation traumatisante dépend d'une personne, diffère d'une personne à une autre.
À une autre, voilà. Il dit également, y a-t-il d'autres événements, par exemple, un enfant qui assiste chaque jour à des bagarres entre papa et maman. Tous les jours, devant lui, papa et maman se battent. Est-ce que cela finira par traumatiser cet enfant?
Oui, parce que y a un effet cumulatif qui est là-dedans. Il y a un effet cumulatif. En fait, une situation peut constituer un traumatisme par rapport à l'intensité, à la survenue brutale de cette situation, ou encore la répétition de la même situation peut devenir plus traumatisante pour une personne. Oui.
Voilà, Christelle Toumba de Kinshasa a raconté son histoire. Bon, avant de répondre à sa question, on va accueillir Pascal Betou de Kamina. Pascal, bonjour.
Bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Quelle est votre question, Pascal?
Ah oui, j'aimerais juste apporter ma modeste connaissance par rapport au traumatisme lié aux conflits armés que j'ai eu à connaître. Mmh. Je suis juriste, mon mémoire de licence, j'ai parlé sur l'utilisation des drones dans les conflits armés. Donc la manière dont les États puissants comme les États-Unis, l'Israël, la Grande-Bretagne utilisent les drones le niveau de stress et de traumatisme qui crée dans le chef de la population en survolant au ciel. Et là, j'ai été appelé à entrer en contact avec un défenseur des droits de l'homme en Israël. Et celui-là m'a donné le feu sur les traumatismes et les données nécessaires qui pouvaient m'aider pour constituer mon travail. Je vous dis que c'est un problème très, 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 très délicat parce que ça déstabilise la personne, ça crée une certaine perte de stabilité dans le chef des individus. Et moi-même, j'ai dû vivre cela en 2014. À deux reprises, j'ai été victime d'un vol. Vous voyez, au mois de janvier, j'étais allé au deuil, aller compatir avec un ami qui avait perdu son papa.
Oui.
Quand je suis rentré chez moi, j'ai trouvé que ma maison était presque vide. Il n'y avait plus rien. J'ai laissé tomber et puis j'ai recommencé la vie. Et puis au mois de mai, le même problème s'est répété. On m'a encore volé, on a cambriolé ma maison. Et puis chaque fois qu'il faisait nuit, chaque fois qu'il arrivait que je ne suis pas à la maison aux environs de 19h-20h, je sentais en moi comme si une partie de moi n'était plus. Vous voyez, je sentais que j'étais en insécurité. Il fallait à tout prix rentrer à la maison pour retrouver ma mémoire. Vous voyez un peu. Donc ça se déstabilise, ça crée dans le chef de l'individu quelque chose là qui est inexplicable, mais émotionnel, qui est très, très, très fort. Et pour surmonter cela, ça demande beaucoup d'efforts. Malheureusement, à Cannes, il n'y a pas de psychiatre. J'ai dû faire face à cela en restant à la maison chaque fois que la nuit tombait. Il fallait que je sois à la maison. C'est vraiment compliqué. Donc nous devons éviter à tout prix cela. À tout prix éviter.
Merci, que Pascal. Merci.
Le conflit d'armée nous apporte ce genre de traumatismes.
Merci.
Parce que c'est difficile à le guérir. Ça s'accompagne avec beaucoup de choses, ça s'accompagne avec le stress. L'invité vient de relever le stress.
D'accord.
Le stress aussi,
Pascal, merci.
C'est encore un autre problème.
Merci Pascal. Nous avons Ismaël Mompoy et Alumbashi. Bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama.
Quelle est votre question par rapport au traumatisme lié aux conflits armés?
Ok, ma question c'est de savoir quelle est la différence entre un traumatisme physique et un traumatisme intellectuel, physique et moral. Et comme l'invité a dit, j'espère que nous avons le tas de l'émotion, nous avons la mélancolie, chagrin, non chagrin. Tel que la mort d'une personne qui est décédée, soit que c'est mon proche, ça peut affecter toute ma vie. Maintenant, la question que je pose à l'invité, c'est de savoir pourquoi les mauvaises images restent toujours gravées à la mémoire. Telle que par définition, l'image est une représentation mentale de quelque chose déjà vu ou déjà entendu. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire stratégiquement pourvu qu'on puisse se débarrasser des mauvaises images, pourvu que ça ne puisse pas rester gravé dans la mémoire? À part cela, comme l'émotion vient si souvent, parce que j'ai un témoignage d'une fille qui m'a dit à Goma, il ne supporte pas voir même la physionomie d'un homme. Pourquoi? Parce que c'était une violence qui s'effectuait parce qu'on a violé sa mère, sa petite sœur, et elle a pu échapper à cette catastrophe. Mais de ce fait, qu'est-ce qu'on peut faire envie de s'évider complètement de ce genre d'image dans la tête? Merci beaucoup.
Bien. Alors, revenons à la question de Christelle Ntumba qui nous a raconté son témoignage alors qu'elle était encore à Lubumbashi. Un groupe des militaires, des hommes armés ont fait irruption dans la maison. Ils ont violé sa sœur et elle a reconnu d'ailleurs l'un de ses bourreaux. Elle a pu s'échapper aujourd'hui, des années plus tard. À chaque fois qu'elle revoit ce monsieur ici à Kinshasa, elle ressent la même douleur, la même blessure comme si c'était hier. Alors, comment arriver à guérir cette blessure, docteur Mifundu?
Je vais vous proposer, compte tenu de la richesse des questions des intervenants, de les rassembler un peu pour que ce soit un peu plus explicite.
D'accord.
Alors, d'abord, la guerre, c'est quoi? La guerre, elle est préparée par des gens très intelligents. Excusez-moi de diminuer un peu le niveau des explications. La guerre est préparée par des gens intelligents qui savent que même avant la guerre, il faut aller faire mal à des personnes qui vont vivre la guerre. Ils font passer les rumeurs. Rien que ces rumeurs mettent la tête
Et qui sera la
guerre? Oui, docteur Abraham.
Ce qui va se passer demain. Et l'objectif de la guerre même, toutes ces situations, tout ce qui peut être vu, tout ce qui peut être vécu, c'est dramatique. Et même l'après-guerre, ceux qui ont vécu ces situations, les guerres qui ont perdu, par exemple, toutes leurs maisons à l'est, et qui se retrouvent à Kinshasa avec rien, qui sont à la merci, ont été des grands commerçants, et qui doivent vivre à la merci de leurs cousins qu'ils ont aidés quand ils étaient à l'école. Donc c'est assez pénible. Et généralement, quand on est atteint du traumatisme, eh bien, qu'on arrive à l'état de stress post-traumatique, il y a trois grands éléments, trois grands signes qu'on peut noter. C'est de revivre ces événements en soi quand on est seul. C'est de chercher d'éviter les situations qui rappellent les conditions, les situations, le moment qui rappelle la situation difficile vécue. C'est comme celui qui a été volé, qui évite la nuit, qui évite ainsi de suite. Mmh. Et le fait que finalement on vit de manière hyper vigilant, on ne dort pas. On n'est pas à l'aise avec soi. Et qu'est-ce qu'il faudrait finalement faire quand on se retrouve face à cela?
Mm-hmm.
Eh bien, généralement, les personnes ne parlent pas de leur situation. Ils ont une certaine incapacité de parler de leur situation.
De parler avec qui, docteur?
Avec les autres de leur situation. Avec les autres de leur situation. Et ils vivent une situation sociale parfois précaire. Donc, il faudrait une prise en charge qu'on appelle holistique. Donc, qui verrait leur situation psychologique, qui est la situation l'état traumatique, et leur situation sociale, et leur situation relationnelle. Donc, c'est autour de tout cela qu'on devrait normalement agir. Et qui est victime de ça par rapport à la guerre, par exemple? Mais c'est tout le monde qui est protagoniste dans cette guerre. Même vous, les journalistes, quand vous faites des reportages pendant la guerre, vous vivez ces événements, donc vous êtes à risque au traumatisme. Hein? Même les militaires, ils sont à risque au traumatisme. Toute cette population qui vit, même ceux qui vont aider les personnes victimes de la guerre, et sont à risque au traumatisme. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et qui doit normalement les aider? En fait, c'est aléatoire de penser qu'il n'y a que de psychologues, il n'y a que de psychiatres qui peuvent les aider. Bien sûr, ils doivent être là. Mais combien de psychiatres nous avons aujourd'hui au Congo? Nous avons peut-être une soixantaine et tout le monde est concentré à Kinshasa. Et quand vous voyez ce qu'ils font, beaucoup se spécialisent dans des domaines assez bien particuliers, dans les accidents vasculaires cérébraux, dans les SIDA. Donc il faudrait que ceux qui ont appris à aider ce genre de personnes transfèrent leurs compétences aux personnes qui sont proches de ceux qui ont vécu la situation, qui sont par ailleurs très très nombreuses, ou qu'on arrive finalement à atteindre la grande partie de victimes, de survivants. Et, voilà. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire? En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est parler avec eux, leur aider, parler avec eux pour les aider à parler de ce qu'ils vivent. De façon qu'à la fin, ils puissent faire avec cette situation, parce que cette situation, c'est la situation qu'ils ont vécue, on ne va pas l'effacer. Elle est là, ça fait partie de leur passé. Mais plutôt, il faudrait leur permettre, leur aider à ce qu'ils, finalement, ils puissent vivre leur avenir de manière un peu plus saine.
Voilà, on retient que pour sortir de ces traumatismes, il est important de verbaliser sa souffrance, de parler et d'échanger avec les autres, et si possible, regrouper ceux qui ont vécu la même situation et leur permettre d'échanger les expériences, et ça permet de se soulager. et de guérir la blessure.
Il y a beaucoup d'activités que ceux qui sont appelés à accompagner ce genre de personnes peuvent organiser. Ce groupe de parents, par exemple, pour les enfants qui ne seront pas parlés, qui ne parleront pas de leur souffrance, il faudrait les découvrir. Il y a avec de stratégies comme les dessins, les aider à dessiner, les aider à jouer, les aider à faire des petits jeux comme des petites scénettes, au cours desquelles on peut découvrir que voilà, celui-là, c'est cet enfant-là qui pose des problèmes, celui-là ne pose pas de problèmes. Là où il n'y a pas de spécialistes, de psychologues, comme je disais bien, il faudrait que ceux qui sont bien outillés, qui sont les psychologues, qui sont les psychiatres, aillent renforcer les capacités de personnes qui ont déjà des capacités aidantes, des personnes locales, qui ont déjà des capacités locales à aider ce genre de personnes pour qu'on atteigne le plus de monde possible. Ces personnes-là, c'est qui? Ce sont ces maîtres d'école, ce sont ces directeurs, ces professeurs, ces éducateurs sociaux, ces leaders qui ont déjà des capacités soignantes, des capacités d'accompagnement, qui ont déjà accompagné ce genre de personnes dans d'autres situations que cette situation de guerre. Et puis le traumatisme, ce n'est pas seulement la guerre, mais c'est tout événement qui est imprévisible, qui est soudaine, qui met la personne face à la mort,
docteur,
face à laquelle la personne est impuissante.
Docteur Mifundu,
c'est pas seulement la guerre.
Il n'y a pas seulement la guerre. Docteur Mifundu, on est obligé de s'arrêter là pour aujourd'hui. On aura l'occasion d'y revenir sur ces sujets si intéressants. Je rappelle que vous êtes neuropsychiatre. Merci et excellente journée.
Merci beaucoup.